Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM, ondes très musicales, mais pas que, des invités ce matin sur notre antenne. Bonjour Bruno Léveillé.
Bonjour Jeannot, comment
vas-tu ? Bruno Léveillé, qu'on a eu l'occasion déjà d'accueillir ici, notamment pour parler de l'aventure bientôt et de bien d'autres choses encore, de formation culinaire et dans cet univers-là. C'est dans un tout autre univers que tu nous viens aujourd'hui, mon cher Bruno. Superbe uniforme, si je puis me permettre.
Merci beaucoup. Alors, complètement, c'est un autre univers. Tu m'as pas vu encore comme ça. Je suis habillé en marin, marin d'État.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que j'ai été marin d'État pendant 17 ans. On a un proverbe qui dit « marin un jour, marin toujours ». Bon, il se trouve que je fais un petit peu de réserve pour la Marine nationale. Et mon objectif dans cette mission de réserviste, c'est de faire rayonner la marine au sein du département des Landes et de faire de la mise en relation entre les Landais et la Marine nationale.
Alors, un rayonnement qui t'a conduit à nous amener, quelle vilaine expression, à inviter Arthur Hoepner qui est avec nous aussi pour la sortie d'un 8e roman. Vous étiez du côté de la librairie Bulle d'Encre hier, si j'ai bien mes souvenirs sont bons.
Bonjour à tous, bonjour.
Bonjour,
merci de nous recevoir.
Avec plaisir. Avec plaisir. Les amis de mes amis sont mes amis, et puis Mika Cesse ou Cassa, on va parler de ce 8e roman, Père de sang, frère de cœur, qui est récemment sorti, donc qui retrace une partie de votre expérience. Racontez-moi un petit peu tout ça, Arthur.
Alors, c'est le 8e que j'ai commencé à écrire en quittant la marine. J'étais pendant 20 ans comme Bruno de la marine au sein des forces spéciales, des commandos marines. Et moi, j'ai quitté pour des raisons familiales, un divorce, deux enfants à gérer. À partir de là, j'ai trouvé l'écriture comme exutoire. Ça m'a permis de prolonger mon histoire au sein des commandos en écrivant une histoire sur les commandos. Et chacun, à un moment donné, vous savez, quand on quitte un métier qu'on aime sans y être préparé, parfois c'est le grand vide. On a l'impression de descendre d'un grand manège. Et moi, l'écriture m'a aidé. Et les rencontres de la vie, moi, ça a été une femme derrière qui m'a dit « Ton livre, il peut intéresser du monde. » Elle m'a dit « Édite-le. » Et à partir de là, ma belle aventure a commencé. Je dis ma belle aventure parce que c'est surtout une aventure humaine. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je vous rencontre et je parcours la France à présenter mes livres. Et effectivement, ce livre-là, c'est le 8e. Et il est un peu différent parce que là, je parle du fils du héros. Et quand je dis père de sang, frère de cœur, c'est parce que le fils veut suivre les traces de son père. Et être le fils d'eux, c'est pas facile. Dans quelque profession que ce soit, se faire un prénom, tracer sa propre route. Donc, le gamin, lui, veut devenir commando marine. Mais son père était déjà. Et quand on rentre dans des unités d'élite, comme ça, il y a le culte de l'excellence, c'est pas facile. Il y a ceux qui aimaient son père, il y en a ceux qui l'appréciaient un peu moins. Et lui, il doit tracer sa propre route. Mais il a toujours au-dessus de lui l'ombre de son père, qui veille un peu sur lui, mais qui laisse quand même tracer sa propre route. Et le frère de cœur, c'est une notion qu'on a tous connue. Vous savez, c'est cet ami qu'on rencontre au cours de notre vie et qui devient plus qu'un ami. C'est pas le frère de sang, c'est le frère de cœur. On appelle ça l'amitié, on appelle ça la fraternité. Et à l'armée, on l'a souvent, ça. On dit qu'on est des frères d'armes. Et là, c'est ce gars qui est là quand on a besoin de lui, c'est-à-dire qui va nous tendre la main. Je dis souvent, c'est pas l'ami qui tape sur l'épaule, mais c'est l'ami qui est là pour nous retendre la main quand on est tombé, quoi.
Un ouvrage qui permet aux lecteurs, aux lectrices de plonger dans cet univers des commandos marines, Arthur.
Voilà, complètement. Ouais. Complètement. Quand je me suis mis à écrire, c'était pour montrer justement que pour faire ce métier de marin et de commando, il faut vraiment aimer les hommes. On dit souvent, les commandos, les forces spéciales, c'est des vats en guerre, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'on est souvent confronté à ce que l'homme peut faire de plus beau et de plus laid. Et on se retrouve parfois dans des situations extrêmes. Et il ne faut pas oublier que derrière l'uniforme, y a un père, il y a un frère, il y a un fils. Et on a les mêmes envies, on a les mêmes peurs. Un commando qui n'a pas peur, c'est pas vrai, on a tous peur. Et c'est vraiment faire rentrer le lecteur, le profane qui connaît pas cet univers-là, dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, au début, je pensais, j'avais peur d'intéresser que les anciens militaires et tout. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que presque 40% de mes lecteurs sont des lectrices. Quoi.
Mmh. Justement, parce que c'est vrai que quand on n'est pas, qu'on ne connaît pas, qu'on est un peu profane pour cet univers, c'est un univers quand même assez intrigant que cet univers des commandos, de cette préparation. On imagine la préparation psychologique, la préparation technique, les situations extrêmes, comme vous les avez évoquées, le fait d'y être confronté et de les affronter. Ça, c'est un truc qui est très intrigant, quoi. Et, raconter un petit peu de tout
mais
ça.
Mais justement, je dis que pendant 20 ans, et Bruno a connu ça aussi, on vit dans le culte du secret. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Moi, je sais, je partais en mission, ni ma famille, ni mes amis savaient où j'allais. Et encore aujourd'hui, je dis toujours, les hommes de l'ombre aiment rester dans l'ombre. Vous voyez, quand ils sont mis dans la lumière, c'est souvent, par exemple, pour des drames comme, je pense toujours à Cédric et Alain, les deux derniers commandos qui sont tombés, le commando Hubert, qui sont tombés. Et là, on va nous mettre à la lumière, on va parler, nous, les forces spéciales, il va y avoir des reportages à la télé. Mais c'est vrai que les hommes de l'ombre n'aiment pas être mis à la lumière, parce que notre travail, c'est rester dans l'ombre. Alors après, c'est un travail, on est préparé, on est conditionné, on s'entraîne, et c'est un métier prenant. Alors c'est un métier égoïste aussi, parce que quand vous passez 8 mois par an, souvent à l'étranger, c'est très égoïste. Mais on a surtout ce sentiment de faire partie de l'histoire, d'écrire des chapitres de l'histoire du monde. Alors c'est un peu ronflant de dire ça, mais vous savez, comme je racontais hier, vous vous retrouvez dans votre canapé le soir et vous regardez la télé, vos informations, et vous suivez d'un coup dans un pays un retournement, un soulèvement, et vous savez que demain peut-être vous allez être dans un avion, dans un sous-marin ou dans un hélicoptère en direction de ce pays-là. Et on a vraiment ce sentiment d'être acteur de l'histoire du monde, quoi.
Est-ce qu'il y a un sentiment de peur qui reste au cours de ces années, ou vous arrivez au fur et à mesure à l'annihiler, à le gérer à...
Oui, alors la peur, on l'a à des instants T. Vous voyez, moi, je dis toujours que celui qui dit qu'il a pas peur, c'est un menteur, quoi. On a tous peur dans quelques situations de nos vies. Moi, encore aujourd'hui, j'ai peur. Mais moi, j'ai toujours dit que la peur, pour moi, c'était un merveilleux allié. Parce que moi, une fois que j'ai peur, tous mes sens sont en éveil. On est tous pareils. Quand on a peur, on a tous les sens qui sont en éveil. Alors parfois, elle peut paralyser. Et la force d'un homme, c'est justement, un homme avec un grand H, bien sûr, c'est de savoir en faire une force, en allié. Et oui, bien sûr, des peurs, on en a eu. Après, c'est vrai que quand on quitte comme ça, c'est... Oui, on parlait de foot tout à l'heure, voilà. Ouais. Et je faisais un peu l'analogie. Hier, je donnais une petite conférence au Rotary Club, et quelqu'un m'a dit, mais quand on quitte un métier comme ça du jour au lendemain, la chute doit être... Elle doit être rude, quoi. Mais je dis, mais c'est pareil dans tous les métiers. Vous voyez, on parlait de football tout à l'heure. Quelqu'un qui aujourd'hui fait 15 ans de carrière, ou du jour au lendemain, ça s'arrête pour une grosse blessure, ça doit être terrible pour lui. Et on voit d'ailleurs certains qui tournent mal, qui tombent de la drogue, qui tombent de tout ça. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus cette adrénaline dont ils ont besoin. Ils n'ont plus cet objectif d'être le meilleur, de s'entraîner et tout. Et quand vous quittez un métier comme le métier de marin ou de commando, c'est ça. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous n'avez plus de but. Moi, je me souviens, j'habite Saint-Mandrier-sur-Mer. Et je voyais après les gars du commando Hubert partir devant moi en camion, en bus. Et je savais qu'ils partaient sur des théâtres d'opération. Et vous êtes assis là. Bon, j'étais bien. J'étais avec un verre à une terrasse. Maintenant qu'on peut y retourner en plus, c'est bien. Et j'étais assis à la terrasse. Et quelque part, vous avez un petit pic au cœur, vous voyez. Je dis, mince, j'y suis plus, quoi.
L'écriture, voilà. Arthur, vous écriviez un peu avant, c'est vraiment quand vous avez quitté la marine que vous avez cette sorte d'intuition ou de fluidité pour y venir.
Alors j'ai commencé à écrire un peu comme ça. Je dis toujours, dans la marine, quand il y a les pots de départ, c'est tradition dans la marine, il y a toujours un petit speech, vous voyez, qu'on écrit ou on décrit un peu la personne. Et souvent j'étais... On me disait, tiens, écris, t'aimes bien écrire, écris ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une facilité à écrire, à transmettre des émotions. Et là, c'est vraiment venu au cœur de la nuit. Je vous disais, je me suis retrouvé seul avec mes deux filles de 4 et 6 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté un peu. Et je me suis retrouvé le soir à écrire. Et j'ai commencé à écrire. Et c'est venu. Et ça a été ma thérapie. Vous voyez, ça a été. Il y en a qui vont voir un psy. Moi, je suis allé voir mon ordi. Je me suis mis derrière le clavier. Et ça m'a permis, quelque part, de prolonger l'histoire. Et maintenant que c'est devenu une belle aventure, et c'est surtout une aventure que je partage avec mes lecteurs. Vous voyez. Mon premier livre s'appelait « Toujours y croire ». Parce que justement, quand j'écris, je perds un métier que j'aime, je perds une cellule familiale, j'ai plus de but dans la vie. Et je pense que je suis un éternel optimiste. Je pense que demain, il fera beau et qu'il faut toujours avancer dans la vie. Et quand j'ai sorti ce livre, derrière, j'ai eu des retours extraordinaires. Des gens malades, par exemple, qui me disaient, moi, ton bouquin, il m'aide à attaquer ma chimio. Et pour moi, c'est mon plus beau prix de littérature, ça. C'est-à-dire que, j'ai gagné, quoi. J'ai réussi à transmettre quelque chose et je me suis rendu compte de la force des mots. Alors, comme je dis toujours, moi, je ne gagnerai jamais un prix Goncourt avec mes livres. C'est des livres qui se lisent, qui transportent. C'est de la littérature de plage. Mais voilà, à partir du moment où j'arrive à faire rêver mes lecteurs, moi, ça suffit à mon bonheur. Ça. Ou que j'apporte quelque chose, vous voyez, à mes lecteurs. Il y a des jeunes, par exemple, qui ont quitté leur cursus scolaire. Je pense à quelqu'un qui était en BTS commerce, qui me rencontre au Sable d'Olonne. 3 ans plus tard, je lui remets le béret vert. C'est une grande responsabilité. C'est quelque chose de fort à vivre, quoi. Voilà, et c'est en ça que je dis que mon histoire, elle est humaine et que je me régale, voilà. Je me régale à la vivre.
Alors, vous confessez que je ne vous ai jamais lu, évidemment. Enfin, évidemment, ça aurait pu d'ailleurs, mais que je vais vous lire très vite. Bruno, j'imagine que tu es un lecteur d'Arthur.
Oui, 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 bien sûr. Et alors, moi, pour le coup, je ne suis pas profane. Ce sont des mots, des situations qui me parlent. Et comme je lui ai écrit, après avoir lu notamment son dernier livre, les larmes me montent facilement aux yeux. Je retrouve des situations que j'ai vécues. On est dans des mots qui sont de l'humain vers l'humain, vraiment. Et je suis convaincu que ça touchera aussi bien des profanes pour des situations qu'ils ont pu vivre, les relations père-fils, les relations fraternelles, etc. On retrouve vraiment cette belle dimension humaine. Quelquefois, je me dis que la marine ou pour le coup les commandos marines ne sont qu'un prétexte pour passer un message d'humanité.
Est-ce que ça peut être aussi un moyen pour celles et ceux qui sont peut-être dans quelques clichés ou dans quelques réticences par rapport à cet univers militaire? Est-ce que ça peut être un moyen, évidemment, de rentrer, de tomber ces barrières?
Complètement. Et ce qui est terrible, justement, vous touchez du doigt quelque chose de... Par exemple, après mon premier livre, je reçois un mail d'une dame, elle me dit « Grâce à vous, je peux laisser partir mon fils à l'armée tranquille ». Et donc, je lui ai répondu et elle m'a dit, voilà, ce qui est exactement ce que vous venez de dire, c'est que elle avait ce cliché des va-t-en guerre, des gens qui, voilà, ils sont là, on est là pour faire la guerre. Un jour, dans un salon du livre, il y a une dame qui m'a dit, j'ai jamais compris, elle me voit mes livres, elle voit mes photos et elle dit, ça tombe bien, je tombe sur vous. Je me suis dit, pourquoi un jeune s'engage pour tuer d'autres hommes? J'ai dit, mais madame, je m'engage pas pour tuer des hommes. Moi, je m'engage pour des valeurs, pour défendre mon pays, pour défendre des valeurs. Et même si à 17 ans, comme je le dis souvent, moi, à 17 ans, je ne me suis pas engagé pour les trois couleurs. À 17 ans, j'ai vu un prospectus. Bon, il n'y avait pas Internet encore, c'était en 84. Et il y avait écrit « Devenez commando marine ». Et je voyais qu'on pouvait sauter en parachute, qu'on pouvait plonger en voyager. Et j'ai dit « Ouh, ça, c'est pour moi ». Voilà. Et je suis parti comme ça. Et c'est quelques années plus tard, après mes premiers déploiements, après avoir rencontré des gens, avoir vu des gens tomber, avoir sauvé des vies, que là je me suis dit, mais tu sers à quelque chose. Vous savez, quand vous allez récupérer des gens qui sont perdus dans un coin d'Afrique ou du Moyen-Orient, qui savent que si vous ne venez pas les récupérer, ils vont mourir, et bien quelque part, quand vous rentrez en France, ben, vous avez le sentiment du devoir accompli. Et on n'est pas des va-t-en-guerre, bien au contraire. Vous savez, on dit toujours qu'une mission commando, quand elle réussit, c'est qu'on n'a pas tiré. C'est ce qu'on a toujours dit, même si aujourd'hui les règles d'engagement changent. Mais voilà, on n'est pas là. C'est vraiment un métier, je disais tout à l'heure, où on cultive beaucoup le culte de la fraternité. Regardez, la Marine nationale, elle a un premier travail, c'est on est des gens de mer, donc avec la fraternité, des gens de mer. Et c'est important, cette notion-là, le vivre ensemble. Ouais, est-ce qu'on parle de vivre ensemble qui manque aujourd'hui, le vivre ensemble en France? On a un gros problème du vivre ensemble. Et c'est vrai que, par exemple... Je parle. Hein. Par exemple, vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui est complètement pour le retour du service national. Alors, peut-être pas 12 mois ou 10 mois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont plus habitués. Mais quand il y avait le service national, il y avait ce vivre ensemble. Moi, je me souviendrai toujours, quand j'étais à l'école des fusiliers marins, il y avait encore les appelés. Et j'avais un collègue qui encadrait les appelés. Il m'a dit, tu devrais venir voir quand ils arrivent avec leurs valises. Mais c'est la France. Vous aviez la France profonde avec le gars qui arrivait avec sa petite valise en carton, avec tout repassé, avec les étiquettes. Et à côté de ça, vous avez le gars qui venait de la banlieue avec son baluchon, où il avait tout fourré en boule à l'intérieur. Et à côté de ça, il y avait l'autre qui avait du jambon fromage dans sa valise. Mais il y avait toutes les catégories sociales qui étaient là. Et ça se mélangeait. Au début, ils se regardaient en chien de faïence. Et au bout d'un mois de classe, où ils ont un peu souffert ensemble, où ils ont un peu gangassés, eh ben, ils se retrouvaient, le paysan du Gers, avec le petit gars de la cité de Bondy, ils se rapprochaient. Ils se rendaient compte qu'ils avaient des valeurs communes et qu'ils étaient capables de vivre ensemble. Et aujourd'hui, chacun vit dans son, le gars de Bondy rencontrera jamais celui du Gers. Et donc, on crée du communautarisme. C'est pour ça que moi, je suis foncièrement pour le service national, pour redonner un socle commun, de le vivre ensemble à nos jeunes aujourd'hui. C'est ce qui leur manque. Et c'est pour ça que tout le monde se regarde en chien de faïence et c'est bien dommage.
Il y avait, Bruno, cette semaine, le Stade Montand Omnisports qui organisait une journée autour de des métiers. Oui. J'ai cru comprendre que la Marine nationale était de la partie.
Oui. Avec les autres armées, bien sûr. C'est le CIRFA, le centre de recrutement. Mm-hmm. Et effectivement, les jeunes qui souhaitent peuvent aller se renseigner. C'est ce matin encore, je ne sais plus où c'est. Il y a une autre date. Enfin, c'était hier, et puis je sais qu'il y a une autre date. Il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des marins qui sont professionnels du recrutement, qui peuvent donner une idée sur la cinquantaine de métiers qui peuvent exister dans la Marine nationale. Parce qu'aujourd'hui, bon, évidemment, Arthur est à l'honneur et on parle des commandos marines, mais il faut savoir que dans l'équipage, il y a besoin de tout type de métiers, de tout type de gens, de tout horizon, de toute formation, certains même sans bagages scolaires. Il y a de la place pour tout le monde dans l'aventure. Voilà.
C'est pour ça que je pose la question, c'est par rapport aux parents peut-être qui nous écoutent, parce que les plus jeunes, ils doivent être normalement ou au collège ou au lycée. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour vous donner envie ou avoir quel profil et à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce qu'on y recherche, quoi, même si vous l'avez déjà un peu évoqué, Arthur.
Bah déjà, la marine, comme il a dit Bruno, c'est combien de métiers maintenant? Plus de 60
une
métiers.
Cinquantaine.
50 métiers. Aujourd'hui, on engage de la marine des pilotes de drones. On est vraiment à la pointe de la technologie. Et moi, je dis, par exemple, je prends toujours mon cas, ma fille, elle fait infirmière, des écoles d'infirmière, et je lui avais dit à un moment donné, mais tu sais, tu devrais te faire dans l'armée. Parce que être dans l'armée infirmière, c'est quelque chose de très beau. D'abord, elle vous forme, vous apprenez le vivre ensemble. Après, vous allez faire votre travail dans des conditions parfois difficiles. Le cuisinier, par exemple, moi, je défie tous les cuistots, tous les chefs du monde d'aller faire à manger sur un P400. Cuisiner sur un P400 avec une mère force 4-5.
Alors, le P400, pour les profanes, c'est un patrouilleur.
Voilà, c'est un patrouilleur. Donc, c'est un petit bateau. Et imaginez, avec des creux de 3 mètres, le cuisinier, il faut qu'il fasse à manger. Donc, c'est une école de la vie. Moi, parfois, je voyais des cuisiniers, quand ils voyaient. Quand vous savez, quand on dit de la marine, on marche sur les murs. Eh bien, c'est la réalité. Hein. Ouais, c'est-à-dire que, par moment, il y a tellement de houle que vous marchez sur les murs. Et là, vous avez le cuisinier qui, lui, il est là, il se tient partout et il fait à manger, quoi. Mmh. Il fait à manger pour tout l'équipage. Donc, c'est une merveilleuse école de la vie, quoi. Lui, quand il se retrouve après dans un restaurant après ses années d'armée, et ça doit lui faire drôle, quoi. Rien qui bouge.
Alors, je sais pas si Philippe Etchebest nous écoute, mais comme on est en lien du côté des Ramon Cube avec lui, peut-être qu'on pourra faire passer le message.
Il va peut-être appeler pour dire si, moi, je connais.
C'est tant jamais. Vous êtes de passage en Gascogne, Arthur, pour donc présenter votre dernier roman, Père de sang, frère de cœur. Vous repartez quand et quelle est la suite de vos aventures,
hein? Alors là, aujourd'hui, Bruno, aujourd'hui, je vais où après?
C'est mon organisateur.
Ouais. On va à Campusland faire une petite conférence pour les bacs plus 5, puisque là aussi, il faut le savoir, hein, Arthur fait des conférences pour les entrepreneurs, ouais, les entreprises, etc., où il fait un lien entre tout ce qu'on a pu évoquer de valeurs des commandos, à savoir la fraternité, la solidarité. Mais ça va un peu plus loin parce que il y a des techniques qui sont tout à fait transposables dans le monde de l'entreprise. Donc c'est toujours intéressant de confronter ces deux mondes et de pouvoir apporter des notions qui sont celles des marins dans les différentes entreprises. Donc Campusland pour voir ses futurs managers et leur apporter un petit peu de l'expérience d'Arthur. Et puis cet après-midi, Arthur rencontrera des futurs engagés, on l'espère, enfin des jeunes gens qui souhaitent entrer dans la marine, et ils ont rendez-vous au CIRFA Marine à Mont-de-Marsan. Et pour ce qui concerne Mont-de-Marsan, ça se terminera là, à moins que quelqu'un m'appelle et qu'il veuille absolument voir Arthur. On peut toujours, encore une fois, cette dimension humaine est importante, mais en tous les cas, le séjour se terminera à Mont-de-Marsan cet après-midi.
On sent, Arthur, qu'il y a une vraie réalisation dans votre aventure humaine après cette expérience que vous êtes entré en, avec ce que vous vivez actuellement.
Mais bien sûr, je suis plus riche humainement depuis que je me suis lancé là-dedans. Mm-hmm. C'est ces rencontres que je fais, ouais, qui m'enrichissent à chaque fois. Bruno parlait des conférences, pardon, il y a une, c'est justement manager un groupe de combat et en faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Et je rencontre des entrepreneurs et les échanges m'enrichissent beaucoup, quoi. Ou un autre sujet, c'est aller au bout de ses objectifs de vie par le dépassement de soi. Là aussi, vous voyez, on rencontre des gens qui parfois se disent « Non, j'y arriverai pas. » Non, tu vas y arriver et tout. Donc c'est vrai qu'humainement, c'est une aventure qui m'enrichit énormément, quoi.
Et côté écriture, alors Arthur, pour le huitième roman, vous êtes en train de le présenter un petit peu à travers l'Hexagone. Il y a quelque chose à venir.
J'écris la nuit, donc je dors pas beaucoup, donc j'écris la nuit. Donc oui, l'autre, il est déjà en gestation, quoi. Mm-hmm. Mais plus tard, voilà, il est arrivé plus tard.
Et si vous repassez à l'occasion par notre belle Gascogne, n'hésitez pas, évidemment, avec Bruno, à venir nous faire un petit coucou.
Avec grand plaisir.
Père de sang, frère de cœur, donc le huitième roman d'Arthur Hopfner, en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Une petite un peu comme ça que je dis.
Ouais, non, c'est pour se soigner aussi. La pharmacie, ça me semble être l'endroit.
Il y a la musique aussi, les pharmacies, et puis la grande pharmacie de Radio MDM. Merci beaucoup, Arthur.
Merci de m'avoir reçu.
Au plaisir de vous recroiser.
Avec grand plaisir.
Et puis surtout, dans l'immédiat, de vous lire.
Merci beaucoup.
Adi Chasse, le retour au meilleur de toutes les musiques. Merci, Bruno.
Merci.